Quel français parlez-vous? C'est une vraie question, parce qu'il en va après tout de notre mutuelle compréhension, vous le savez. Certaines tournures de phrases peuvent prêter à confusion, certaines expressions, certains mots même. Le mot passion, le mot laïque, le mot réforme aussi, tiens, au hasard, dont le dictionnaire nous dit qu'il vise toujours l'amélioration. La réforme, c'est intéressant, parce que si on n'est pas d'accord sur le sens du mot au départ, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Ça peut créer des quiproquos, ça peut même carrément flanquer le cafard. Quel français parlez-vous? Faut toujours se poser la question, je crois, et avec une certaine joie, tant pis pour le rêve si passéiste d'une langue pure qui, avec la modernité, serait en train de se dégrader. Force est de constater qu'il y a 1000 français. L'essentiel, c'est de s'en rappeler et de toujours l'interroger, notre français, comme n'importe quelle langue vivante. Quel néologisme avez-vous vu surgir dans votre entourage, par exemple? Quel idiome avez-vous repris, oubliant qu'il n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça? Quel anglicisme vous déborde? Quel régionalisme? Quel mot vous trahit? Dites-vous 8 ou 8, rose ou rase, là ou là? Y a-t-il chez vous des tournures de phrases, des accents, des pointes de breton, de Bresson, de Bourguignon, d'Auvergnat? Êtes-vous chocolatine ou pas au chocolat?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle langue parle mon invité d'aujourd'hui? Sa voix vive, ample et brûlante a fait d'elle la québécoise la plus acclamée du monde du chant lyrique. Elle nous fait l'amitié de sa présence, ô combien enthousiaste, ce matin. Bonjour Marie-Nicole Lemieux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Ça me fait très plaisir.
Tout d'abord, quel français est-ce que vous parlez, vous?
C'est un français que j'espère être international, donc vous êtes capable de me comprendre, c'est déjà ça. Mais disons aussi que j'ai la richesse de tout le patrimoine québécois, qui contient évidemment des mots anciens, très anciens, qu'on a gardés. Comme là, présentement, nous ne discutons pas, nous jasons. et puis aussi d'anglicisme. Le régime britannique a vraiment teinté aussi notre français.
Justement, voilà. Quelle langue est-ce que c'est le français pour vous, qui êtes québécoise?
C'est très fort, parce qu'il y a une notion de survie. Quand on parle du français pour un Québécois, en tout cas pour la majeure partie...
De survie?
Oui, de survie. Parce qu'il faut pas oublier que nous sommes un îlot de 7 millions de personnes qui parlons français dans une mer anglophone. Et cette langue-là, il y a une fierté, il y a une urgence de vivre, de la chanter, de la propager. C'est voilà, moi j'ai été élevée dans une notion de survie.
Vous chantez dans plusieurs langues, évidemment.
Oui.
Dans le répertoire lyrique, quel est le statut, quelle est la place du français?
Écoutez, c'est drôle ça. Il y a des gens qui adorent. Et il y a des gens qui ont peur.
C'est
vrai que c'est difficile. Parce que franchement, les Allemands réussissent bien à chanter le français. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des sons que même les Français de France, vous avez perdu. C'est-à-dire, donc les « en », les « en », les « un », les « un ». Les « un », vous les faites presque plus, par exemple, « brun ».
Brun.
Gars, vous dites « brun ».
Oui.
Mais c'est « brun ».
Oh.
C'est « brun ».
Hein.
« On ». ».«
On ».
C'est « on », les « un », ou du « pain ». Il y a le pain.
Du pain.
Il y a du vin. Nous, au Québec, on a vin, du pain. Donc, on va très loin. Donc, les « e ». Les « e » aussi. Vous dites beaucoup « e ». Et en fait, c'est « e ». C'est plus ouvert. Et c'est vrai que c'est une langue qui est difficile à chanter. Et c'est pour ça que j'en suis fière. Mais je veux la propager parce qu'évidemment, les textes, on a tellement eu de grands poètes et de grands compositeurs et de même dans la chanson française, c'est sublime.
Et en quoi votre langue, le québécois, dans la manière que vous avez notamment de former les voyelles, vous permet-elle d'être plus à l'aise avec les langues étrangères?
Ah, ben parce qu'on les a toutes, on les a quasiment toutes, même le U russe, parce qu'il y a
celui-là, je peux pas le faire, Marie-Nicole.
Ah ouais, mais c'est ça, mais le Québécois, on fait tout. Parce qu'on est... Quand vous entendez Céline qui diphtongue les Français, vous êtes là, vous savez que... Là, vous comprenez à quel point on est capable de faire tous les sons du monde! Même les dill. Donc, souvent, les Québécois sont capables de chanter le russe. Mais voilà, la langue française, quand on est capable de bien la chanter, mais d'une manière libre, avec une bouche simple, parce que vous savez, quand on chante, c'est très important d'avoir un geste vocal. Je sais pas, pour ceux qui connaissent peut-être, vous avez peut-être vu des chanteurs d'opéra chanter avec des mimiques vocales assez particulières,
oui.
C'est-à-dire des bouches crispées, je veux pas dire le mot, mais en cul de poule, où les gens regardent le chanteur ou la chanteuse, ont dit « mais oui, mais elle travaille donc, ben ». Mais en fait, l'idéal pour tout chanteur, c'est de faire, par exemple, quand on voit Roberto Alagna ou Pavarotti, c'est des gens qui chantent, vous avez avec une bouche très simple, ils ouvrent la bouche et ça chante. Et ça, c'est le but mais c'est très difficile à atteindre.
Parler de langue, c'est aussi quelque part parler de texte. Et je connais, Marie-Nicole Lemieux, votre sensibilité aux mots. L'attention que vous portez au texte, d'où ça vient?
Je le sais pas. Je pense que je suis née avec ça. Je sais pas. Peut-être du fait que j'écoutais beaucoup de chansons françaises quand j'étais jeune. Je sais pas.
De chansons populaires, de chansons
oui,
à texte.
Oui. Tout à fait. Le texte m'a toujours touchée. Et je crois que c'est à l'adolescence. J'ai découvert la poésie. Et je sais pas. C'est la sonorité des mots. Gilles Vigneault. J'ai découvert un livre de poésie de Gilles Vigneault et ça m'a séduite et après j'ai toujours voulu raconter quelque chose. Par exemple, même en allemand ou quand je chante, choisis une mélodie ou un lead, si le texte ne me parle pas, ça m'intéresse pas.
Mais vous dites souvent que vous avez grandi dans une famille où le chant avait une place considérable.
Oui.
Quelle place?
C'était comme respirer. C'est comme si... Oui, le chant, c'était comme respirer chez nous.
Mais qu'est-ce qu'on chantait chez les Lemieux?
Mais on chantait tout le temps n'importe quoi.
Par exemple?
Beaucoup de chansons populaires, évidemment. Mes parents, ma mère était fan de Nana Mouskouri.
Oh, à nous aussi?
Oui, et mon père était le roi il chantait du Tino Rossi et du Luis Mariano. C'était un ténor léger, lyrique, naturel. À 3h du matin, il nous chantait Rossignol, Rossignol, le mes. Il pouvait être 3h du matin, il réussissait à faire le contre-do, pianini, sississimo. On y était tous comme ça. Donc, le chant chez nous, c'est quelque chose de... C'était comme respirer. Par contre, la musique classique, ça, c'est venu me toucher, moi. Peut-être les autres un peu, mais surtout moi.
Mais attention, parce que quand vous parlez de Nana Mouskouri, vous savez que nous, on est très technique dans cette
oui,
émission
allez-y.
Sur Nana. Plutôt la Nana de Soleil Soleil, la Nana de Quand tu chantes ou la Nana de Casta Diva?
Mais c'est ces trois nanas-là. Ma maman chantait Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes. Puis aussi, elle n'arrêtait pas de chanter. Toi, qui t'en va? C'est toi qui t'en va, hein. C'est ça les mots, hein. C'est pas Casta Diva. Puis aussi, mes parents chantaient en duo. Coucou, coucou, Paloma. Et moi, j'ai adoré. Moi, ma nana, c'était celle qui chante Un Canadien errant, banni de ses foyers. Ça, c'était dans la jeune nana qui chantait avec la petite guitare, là, qui chantait.
Vous êtes.
Une orange. Ben, là, voilà, c'est mes nanas et
vous
nana,
êtes grand. Toutes les nanas.
Exactement.
Je crois qu'on peut le dire.
J'en vaux trois.
Il se trouve que vous avez développé, c'est pour ça que c'est si savoureux de vous entendre ce matin,
ouais.
Très tôt, un don pour les imitations, Marie-Nicole
oui,
Lemieux.
Oui.
Plus jeune, avant d'arpenter les salles d'opéra du monde entier, quels étaient les artistes que vous imitiez? Ah, je veux savoir, moi.
Oui, mais ça vient tout seul. En fait, mes grandes imitations étaient, mais là, je ne vais pas les faire nécessairement ce matin, là. disons que c'était Ginette Renaud,
oh.
Diane Dufresne, Vanessa Paradis.
Ah.
Et Céline Dion.
Un peu de Vanessa quand même pour nous.
Oui, mais là, c'était, à l'époque, c'était pas très bon finalement, mais bon. Marie-Lyne. Non, Marie-Lyne. C'était. Tu le taxi va pas partout. Il marche pas cela. Mais là, ça fait du bien que j'ai pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça.
Et Céline.
Là. Céline, c'était. Mais c'est ça, c'est genre encore une fleur, encore une larme de bonheur, un peu de tout. Ok, ça suffit.
Oh, vous êtes génial quand
non,
même.
Là, je me fais la voix pendant que je vous imite des choses comme ça, là, c'est terrible.
Et à quel moment vous avez cessé d'imiter les autres pour trouver votre propre voix?
Mais ça, c'était toujours en parallèle. J'ai toujours chanté. C'était ça, là, la beauté de la chose. Et je pense que c'est ça aussi qui me permet, sur scène, de faire plein de couleurs et de pouvoir chanter de l'allemand, du français, et de chanter du français aussi avec plein de possibilités d'interprétation. Depuis que j'ai 6 ans que je fais de la scène, parce que j'étais dans une chorale depuis enfant, où on chantait les samedis à la messe, mais surtout, à chaque année, on faisait des revues musicales avec des opérettes. Donc moi, je suis sur la scène depuis que j'ai 6 ans. Et donc, j'ai fait du théâtre. Et donc, les imitations, c'était vraiment juste à regarder, et puis j'imitais, quoi. Mais c'est ça. Donc, ma voix était claire que j'avais une voix, mais c'était pas...
Voilà. On va y revenir, évidemment, Marie-Nicole Lemieux. Mais d'abord, celle qui a sa propre voix dans cette émission.
Oui.
Croyez-moi, on est plus proche de la Castafiore que de la Calas. C'est évidemment la culture et son actualité fort peu musicale.
Ouais.
Que se passe-t-il donc aujourd'hui? dans l'air du Time, la chanteuse Lizzo a été désignée artiste de l'année par le magazine Time. Ex-flûtiste classique reconvertie en rappeuse, la jeune femme de 31 ans, icône plus size, avait été repérée dès 2014 par Prince. Depuis, elle a sorti 3 albums, dont le dernier 'Cause I Love You en fait la grande favorite des Grammy Awards 2020. Dans le même temps, le Time a nommé la militante écologiste Greta Thunberg personnalité de l'année. You go, girls.
I hear about this Banksy. Banksy
de Noël, surtout deux rennes tirant un banc comme si c'était le traîneau de Santa. C'est la nouvelle œuvre dévoilée par le plus célèbre des street artistes sur un mur de Birmingham au Royaume-Uni. Ironique, poétique aussi, comme toujours avec Banksy, la fresque alerte sur le sort des sans-abri. C'est via son compte Instagram que l'artiste a dévoilé le pochoir. Dans une courte vidéo, on voit un SDF encapuché boire une bouteille d'eau sur le banc avant de s'y allonger. C'est validé.
Tout le milieu du livre est content.
Il est ravi, le monde du livre, avec la toute première cérémonie mardi des trophées de l'édition. En tout, 13 prix ont été décernés lors de cette soirée organisée par Livre Hebdo au Théâtre de l'Odéon, et notamment celui de la meilleure création éditoriale pour la collection L'Ardeur, chez Thierry Magnier. Mais notre prix du cœur à nous, c'est le trophée de la meilleure petite maison de l'année, remis au Tripode, créé par Frédéric Martin. À la bien, cousin.
Only 3 people in the world have one of these, and only one of them is Irish.
En fait, ils sont 17 millions. C'est le nombre de visionnages générés sur le Netflix américain par The Irishman de Scorsese dans les 5 jours qui ont suivi sa mise en ligne. Un score ahurissant révélé par l'Institut Nielsen et analysé par le magazine Variety. Mais attention, l'étude révèle aussi que seuls 18% des spectateurs américains auraient regardé le film de près de 3 heures jusqu'à la fin en une seule fois. Et enfin, qu'il serait finalement 13,2 millions à l'avoir vu en entier, en fractionné. Bon, bah, on attend maintenant les résultats pour le reste du monde, hein. La chanteuse lyrique Marie-Nicole Lemieux, invitée de Boomerang ce matin. Marie-Nicole, vous êtes contralto. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce genre de voix?
C'est les notes graves. C'est la rareté aussi. C'est que le fait que cette voix soit à l'aise dans le chant grave. Mais moi, ma particularité, je dirais encore plus, et ce qui fait aussi que les gens sont un peu étonnés, c'est que souvent, quand on parle du contralto, on parle d'une voix sombre. C'est-à-dire... Bon, ça c'est le ça, on entendrait ça. Et moi c'est
Vous êtes plus lumineuse.
Voilà, j'ai toujours essayé de garder la lumière dans ma voix, même si elle est grave. Et c'est pour moi c'est très 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 important.
Mais parce que quel répertoire est-ce qu'on associe au contralto?
Les vieilles madames, les méchantes, les frustrées.
Abandon.
Tout à fait moi. Non, mais souvent, en fait, le baroque m'a donné une porte d'entrée fantastique. Je croyais pas être chanteuse baroque. En fait, c'est venu par hasard. Et tant mieux, dans le baroque, là, on fait beaucoup de chevaliers, de jeunes premiers, beaucoup d'hommes, ou de guerrières très fortes et désespérées.
Et quand est-ce que vous avez su que vous étiez contralto?
Alors là, c'est au conservatoire. C'était clair pour moi que j'étais pas soprano. J'avais des affinités beaucoup avec les voix de ténor, ce qui était déjà un signe. Les aigus, c'était pas la mer à boire. Hein. Au début, là. Et donc, quand j'écoutais, par exemple, des mezzos, quand j'écoutais Krista Ludwig, qui est pour moi une des plus grandes mezzos, Janet Baker est pour moi et Krista Ludwig. Si vous me demandez mes idoles, ces deux femmes-là sont des modèles incroyables. Ça, c'est mes idoles.
Et pourquoi, donc, à quoi ça tient?
Ces deux femmes-là ont tenu dans la durée une grande carrière avec une qualité d'exécution qui restait. Et surtout, avec un respect de chaque style qu'elle faisait. C'est-à-dire que Krista Ludwig ou Janet Baker, si elles chantent du Bach ou du Verdi, elles vont respecter ce style-là. Et ça, j'ai toujours admiré ça, leur polyvalence.
C'est intéressant parce que le chant lyrique et même tout l'univers de la musique classique, vous n'aviez pas vraiment baigné dedans, somme toute.
Non.
Quel souvenir est-ce que vous gardez du jour où vous avez découvert ce qu'était la musique classique?
Je vois encore mon père arriver dans l'entrée de garage avec un disque de Pavarotti, ce qui s'appelait Holy Night chez Decca. Et donc, il rentre avec ce disque-là et il dit « Ça, c'est tout un chanteur! » Premièrement. Et donc, on écoute Pavarotti. Oui, c'est bien. Et tout d'un coup, à la plage du milieu, une longue plage qui dure 10 minutes. Je me dis « Qu'est-ce que c'est ça? » Et ça commence. Et là, c'est le Sanctus, je pense, de l'enfance du Christ de Berlioz. Et là... Moi, là, ça a été, là, révélation, coup de cœur de Berlioz.
Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps?
J'étais au ciel. J'étais au ciel et j'écoutais toutes les voix. Hosanna in excelsis. Mais il y avait une fugue. Et là, je me rappelle, là, j'écoutais ça et j'entendais toutes les voix, tout ça. Et je me disais, ben, je suis au ciel. Il y avait quelque chose physiquement. Je me sentais remplie.
Mais Marie-Nicole Lemieux.
C'est ça, remplie.
Comment on fait pour que ce choc, cette bénédiction ou cette vocation, pour reprendre cette terminologie quasi spirituelle que vous employez, comment on fait pour qu'il soit vécu par le plus grand nombre, pour que tout le monde puisse avoir accès à ça?
Ah, je pense que c'est pour ça que je fais ma carrière. C'est exactement ce que j'essaie de faire depuis quelques années, parce que là, je suis arrivée à une espèce de moment où j'ai beaucoup travaillé ma voix. Et là, je suis arrivée à un moment où, techniquement, je commence à être libre. Quand je vous dis de chanter sans mimique ou sans bras qui départ d'un bord puis de l'autre. Et ça donne une liberté de chant. Et je sais pas, il y a comme... Quand je chante, quand je suis sur scène, j'essaie vraiment de donner toute la peur que je peux avoir d'être sur scène, à accepter que j'ai le courage d'être, et après ça, j'essaie d'embrasser. C'est carrément ça. Des fois, là, quand je chante, j'essaie que ma voix aille chercher la dernière personne dans le fond. Mais tu sais, c'est dans l'espèce de côté d'énergie. Je sais que ça a l'air complètement... Mais j'essaie d'embrasser les gens et de leur faire sentir qu'ils sont pas seuls. Par ce que je chante, par la musique, par les mots, j'essaie d'être, c'est tout.
Vous vous demandez parfois si le monde contemporain est encore sensible et réceptif à la beauté d'une voix d'opéra, si c'est encore possible.
Oui, et je pense que dans notre monde maintenant, on a besoin urgemment de culture. Et que c'est pas juste le chant d'opéra, la musique, les expositions, l'art visuel.
La beauté.
La beauté. On a besoin de beauté. On a besoin aussi de chanter du lait. On a besoin d'art. On a besoin d'art parce que je considère, et j'arrête pas de le dire sur toutes les tribunes, l'art, elle devrait être nos églises d'aujourd'hui. L'être humain a besoin de spiritualité. Et moi, je le retrouve dans l'art parce que ça rejoint quelque chose de sublime dans l'être humain, mais sans dogme. Et c'est ça qui est beau.
Qu'est-ce qui fait pour vous la beauté d'une voix?
Je sais pas. Franchement, là, est-ce que c'est si important que ça? Ce qui fait la beauté d'une voix, c'est si on est touché ou pas. C'est comme un trait. Je suis allée voir l'exposition Hartung, là, ça m'a mais bouleversée, là, j'étais là, mais je trouvais ça, mais d'une beauté. Quelquefois, il y avait juste un trait flash. Qu'est-ce qui fait que le trait est beau? Je le sais pas. Je le sais pas. C'est peut-être le moment, c'est un ensemble. On est touché au moment où on est.
Et on peut être touché par soi-même. Vous l'aimez, votre voix, à vous? Vous la trouvez belle?
Oui, il faut l'aimer. Au départ, ça, je me rappelle, c'est un des premiers travaux que mon premier professeur m'avait fait faire. Il faut que t'aimes ta voix. Parce que, si t'aimes ta voix, il faut que tu t'aimes toi.
Mais comment il s'y est pris?
Ah! C'était un fin psychologue. Il m'en faisait aussi beaucoup de yoga, beaucoup de prise de conscience aussi, parce que bon, par exemple, la voix, c'est excessivement personnel, vous savez. C'est quand on chante avec son cœur, avec son âme. Et donc, d'accepter, par exemple, qu'un prof te dise, attention, là, c'est faux, c'est bas, c'est... Écoute, moi, je prenais tout personnel, là, c'était horrible. Les gens me disaient que c'était faux, je le prenais avec des tripes. Oh non, ça y est, je suis mauvaise, je suis pas bonne. Et donc, il faut apprendre à s'apprécier pour être plus fort, pour accepter les critiques et vouloir aussi s'améliorer.
Ça passe aussi par une gymnastique vocale, je suppose, oui. Par des entraînements constants.
Oui, tout ça, oui, mais tout ça avec si on n'a pas le bon état d'esprit, ça donne rien.
Et ça, vous le faites tous les jours, encore aujourd'hui?
Non, je ne fais pas des exercices tous les jours maintenant.
Vous chantez tous les jours?
Non.
Même pas une petite musique comme ça?
Oh, mais ça, c'est plus fort que moi, ça compte pas, mais ça, c'est... je suis dans les bains, là, puis je... c'est plus fort que moi.
Quand vous vous levez le matin, une journée de concert, quelle est la première note que vous tentez?
Disons que c'est vrai, en me levant, la première chose que je fais, je vérifie si la voix est là. Toujours.
Par une note.
Il y a des matins que c'est pas là. Et ça veut dire qu'il y a des graillons. Je vérifie l'état des cordes vocales.
Et la dernière note, le soir, avant d'aller se coucher, Marie-Nicole Lemieux.
Ça dépend.
Ha ha ha!
On va en parler, évidemment.
Il y a une variété, une grande
variété. De voix, de beauté, d'amour, parce que je vous vois venir, d'angoisse.
Non,
aussi.
oui, c'est ça exactement.
Faites-moi confiance. Juste après La Tempête, un morceau composé par Victorin de Joncière sur des mots d'Edouard Guinan et que l'on retrouve sur votre dernier disque qui s'appelle Mère. Vous êtes sur France Inter avec Marie-Nicole Lemieux. Vous écoutez Boomerang, lyrique.
Mais je suis aussi la puissance dans son éclat et sa terre. Et sur mes flots, il me s'élance sans écouter pas son cœur. Je suis.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle est lumière. On est quelque part entre l'arc-en-ciel après la pluie, le courant chaud dans une eau glacée du Saint-Laurent et le trèfle à quatre feuilles dans un champ de pissenlit. Elle est jour de chance. Rousseur crépusculaire, œil vert espoir, sourire grand seigneur. Derrière ses lunettes, tout à fait étonnante, avec ses boucles d'oreilles qui tombent tout en noir ce matin, la formidable contralto Marie-Nicole Lemieux, invitée de Boomerang pour parler de voix. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, Marie-Nicole, quand vous êtes sur une scène et que vous commencez à chanter?
Oh mon Dieu! Et plein de choses! Quand je suis stressée, je veux mourir.
Ah bon?
Ah oui, des fois quand je suis stressée, là, je veux mourir. Ce que je fais là, quand je suis vraiment stressée, là, je respire. Puis là, en fait, j'utilise mes sentiments et là, je chante. Je veux mourir. Dans l'air, mettons, je sais pas moi... Kids to dance land. Mais dans ma tête, c'est « Je veux mourir, je vais m'écraser ici, mais c'est pas grave, je vais tout donner pour que vous passiez une belle soirée. » Mais c'est ça, là, j'utilise ces sentiments-là, puis là, je les chante, puis ils finissent par passer.
À vous entendre, j'ai l'impression que vous vibrez, en fait,
dans tous les
sens du terme.
Oh oui, tout à fait. Ben, les cordes vibrent, c'est ça qui est beau, je veux dire, il y a la... Bon, là, je mets mes mains sur ma poitrine.
Oui, on se calme, d'ailleurs, Marie-Nicole,
mais non, mais
je voulais vous le dire.
Non, mais c'est pour vous dire que... hey, c'est ma soufflerie. C'est ma soufflerie, ok? Je l'aime, ma poitrine. C'est ma soufflerie. Une cage thoracique, c'est la soufflerie. Donc, c'est la base. C'est ça qui est beau. C'est la respiration. Les cordes sont vraiment... Ils vibrent avec... C'est comme on est un instrument à cordes. Et toute la tête, tout ça, les cavités, ça, c'est les résonances. C'est comme ça qu'on chante. Et donc, quelquefois, on peut chanter en laissant vibrer les notes jusqu'aux orteils.
Et il vous arrive d'oublier tout quand vous chantez?
C'est-à-dire?
Tous les soucis, le autour.
Oui. Moi, c'est pour ça que j'aime chanter, puis c'est pour ça que je fais un peu... j'aimerais toujours chanter, parce que quand on fait de la musique, c'est des états de pleine conscience qu'on vit. Et ça, C'est incroyable. C'est pour ça que le musicien, on est accro, on veut recommencer à faire de la musique, on aime ça. Il y a un état de pleine conscience et quelquefois, en concert, on est 2000 personnes à être tous ensemble en pleine conscience. Et ça, mes amis, je le sens. Il y a une force.
Ça vous aime beaucoup.
Oui, j'espère que ça viendra me chercher toujours. Ça, c'est cette espèce de communication avec les gens. Je trouve que c'est ça la clé. C'est pour ça qu'il faut aller au concert en live, parce qu'il n'y a rien qui remplacera ça.
Souvent, vous vous décrivez comme une récitaliste, Marie-Nicole Lemieux. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est une récitaliste?
Une récitaliste, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le chant avec piano. C'est-à-dire que, évidemment, je peux faire des opéras avec des orchestres, mais
orchestre, costume, décor,
ouais,
intrigue.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi des concerts avec orchestre, mais le récital, c'est un art aussi il y a beaucoup de difficultés maintenant à vendre des concerts. C'est très intime. Et là, on chante soit des mélodies françaises, c'est des petites pièces qu'on chante avec piano. Et la difficulté est que tout est laissé libre au pianiste et au chanteur. Et si le chanteur est pas intéressant, si le chanteur a pas des choses à raconter, je vous le dis, mes chers amis, ça peut être d'un ennui terrible.
L'opéra, vous vous en êtes beaucoup méfié,
oui.
Au départ. Peut-être justement parce que c'était trop grand.
Parce que je me sentais écartelée dans le récital. Donc pour finir, c'est-à-dire que quand ça fonctionne, quand il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire et quand on raconte, c'est vraiment mes petites mises en scène. Et dans mes récitals, on passe vraiment d'une pièce où les gens pleurent. Après ça, on se met à rire. Et c'est ça, c'est des instants, on rit, on pleure, on se lamente. Et c'est ça qui est beau. Et donc à l'opéra, c'est pas toi qui décides là, à l'opéra. Là.
Ouais.
Donc, la contrôle freak en moi.
Vous êtes dans le contrôle, vous?
Oh, ben écoute, on est part. Là, j'ai dû l'avouer, là. Oui. J'ai dû l'avouer, là. Je m'en suis rendu compte après une petite thérapie. Je me suis dit, boboy, je suis donc bien contrôlante. Mais c'est ce qui fait aussi ce que je suis. Au départ, on ne s'améliore pas si on ne veut pas trop contrôler, on veut bien faire. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise, là.
Un moment d'intimité, Marie-Nicole Lemieux.
Oui.
Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un moment où on se sent moins seul aussi?
Le moment d'intimité. L'intimité, là, on parle de moi. Ça, c'est pas sur scène que ça se passe, l'intimité. Quoique, je peux raconter plein de choses quand je suis sur scène.
Mais toujours par détour.
Voilà. Je savais pas ce que j'ai pu raconter dans mes cristals. Mais ça, c'est moi.
De toute façon, vous me le direz pas.
Ben non, jamais de la vie. Mais mon intimité, c'est souvent... C'est particulier, c'est je vois ça très très fin, c'est délicat, c'est de la porcelaine, c'est fragile et puis ça, c'est rare.
Mais pourquoi vous êtes si bouleversée là?
Parce que la vie, excusez-moi, c'est on voyage beaucoup et on a des vies de fou, les chanteurs, les musiciens, et souvent on revient dans nos chambres d'hôtel et on est seul. C'est beaucoup de solitude.
Mais on peut écouter Beethoven.
Alors, oui! Oh oui! Rien que ça me fait rire. Ça me remet du monde. Je reviens au monde, c'est ce que j'allais dire.
Mais quand vous écoutez Beethoven,
oui.
Vous vous sentez comment? Vous mettez quel morceau?
Là, dans ce temps-là, là, quand je vous parle, là, je suis au bord des larmes, là j'aurais mis le deuxième mouvement du concerto pour violon de Beethoven.
Pourquoi?
Parce que c'est tout l'amour du monde. C'est tout l'amour du monde.
C'est beau.
C'est oui, puis en plus c'est justement il y a quelque chose de seul, de beau, d'intime, ça veut rejoindre quelqu'un. Je sais pas, c'est beau.
Pourquoi la beauté est-elle quelque chose de nécessaire ou de vital pour vous, Marie-Nicole Lemieux?
Parce que s'il y a plus de beau, je vois pas pourquoi on continuerait. Je pense que la faculté de s'émerveiller et la faculté de trouver du beau, souvent la plus belle beauté se trouve dans la nature. C'est celle qu'on cherche pas, c'est celle qu'on ne crée pas.
Y compris la beauté chantée?
Ah oui, mais j'y pense pas trop. Moi, c'est vraiment dans la nature. Par exemple, quand je vais pas bien, là, j'appelle ça, je m'en vais au vert. C'est-à-dire que là, j'ai besoin d'aller dans une forêt, j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin de sentir. les odeurs.
Et puis... vous savez qu'il y a des gens qui viennent vous voir quand ça va pas, justement.
Oui, je le sais. Ouais. Je le sais. Je le sais. Le dernier concert, quelqu'un qui m'a dit « Merci, ça me fait du bien, j'allais pas bien, j'allais tout à l'envers, et là, je vais mieux. » Et là, je me dis « Voilà, j'ai fait mon travail. C'est à ça que je sers. Je sers à ça. » Moi, je chante tout ça, mais je sers à réconforter les gens. Je ne suis que ça.
On fait un truc, là, tous les deux.
Allez, voilà.
Vous me réconfortez. OK? Vous nous réconfortez tous, toutes, auditeurs de France Inter. Okay. Je sais si on en a besoin en ce moment.
Oh, oui, c'est vrai, vous avez bien raison. Qu'est-ce que
vous voulez?
Alors, qu'est-ce que je vais vous rechanter?
Pour nous faire du bien.
Je vais chanter la berceuse que je chantais comme à ma fille quand elle était petite. Elle la demandait tout le temps. C'est italien. Alors, mille... J'ai la petite voix, oui. Mille cherubin coro ti sorridono dal ciel. Una dolce canzone t'accarezza il crin. Una man ti guida lieve fra le nuvole d'or, sognando e vegnando per te, mio tesor, proteggendo il tuo cammin. Dormi, 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 piccolo amor mio. Dormi, sogna, posa il capo sul mio cor.
Mais j'en veux d'autres, des berceuses comme ça. Moi, on en veut tous et toutes d'autres. Merci tellement,
Marie-Nicole. J'aurais pu chanter. Duerme, tenigno, duerme. Duerme, mia alma. Duerme, tenigno, serino. Ça, c'est une autre berceuse espagnole.
Je vous préviens, je vous garde dans le studio toute la journée sur France Inter et vous me chantez des berceuses, moi, je vous le dis.
Viens à la maison, il y a le printemps qui chante.
Ah, vous faites tous les instruments maintenant. Merci tellement, Marie-Nicole Lemieux, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Mère, votre dernier disque, sur lequel on trouve Sea Pictures d'Edward Elgar, notamment le poème de l'amour et de la mer de Chausson et l'ode symphonique de Victorin de Joncière. La mer est disponible et que vous y êtes absolument envoûtante. Vous nous l'avez encore prouvé ce matin. Tout de suite, les médias, Sonia De Villard. Est-ce que vous m'entendez? Sonia, je suis avec Marie-Nicole.
Évidemment, évidemment, Augustin, qu'on vous entend. Et d'ailleurs, on s'est régalé.
À demain.
À demain. Salut, Augustin.